RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Espagne. En 2008, la crise engendrée par la chute de Lehman Brothers aux États-Unis s'étend au monde entier. L'Espagne l'a subi de plein fouet, l'Espagne qui connaît alors un boom immobilier. L'hypothèque est particulièrement développée, tout le monde emprunte, y compris le gouvernement. L'éclatement de la bulle immobilière frappe durement le système bancaire espagnol et la dette du pays explose. Comment les Espagnols ont vécu cette période la plus trouble depuis la chute du franquisme? Des leçons ont-elles été tirées? Espagne, 10 ans après la crise, un grand reportage signé Anishka Kumor.
Ciudad Real, dans la communauté autonome de Castille-La Manche. 200 kilomètres séparent cette ville de Madrid. 1 heure à peine en TGV. Un argument en béton pour construire ici un aéroport. Mais 10 ans après son inauguration en grande pompe, l'aéroport flambant neuf se meurt doucement. Pedro Mellado est conseiller municipal à Miguel Turra, un village situé en périphérie de Ciudad Real. Son parti, Izquierda Unida, une coalition de gauche, s'est opposé au projet de construction.
Nous sommes en face d'infrastructures qui ont coûté près d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, tout a été abandonné. Vous voyez ce grand parking? Il est vide. Apparemment, il n'est même pas abîmé. Les plantes commencent à pousser autour. On voit qu'il n'y a pas d'entretien. L'aéroport devait accueillir normalement jusqu'à 4 vols quotidiens.
Après une longue procédure, le juge a tranché. L'aéroport doit être vendu. Plusieurs acquéreurs se sont manifestés. Aucun n'a conclu l'affaire. C'est un cauchemar, soupire notre guide. Mais dans le pays de Don Quichotte, on est habitué à voir ses rêves s'évanouir. La déception est grande. Envolés les investissements et les emplois promis. 20% de chômeurs pointent encore chaque mois à l'agence pour emploi locale. Pedro lui-même, qui a travaillé pendant 10 ans dans la restauration, espère pouvoir enfin réaliser son rêve, devenir instituteur. Pourtant, le projet de l'aéroport à Ciudad Real n'était pas totalement dépourvu de sens, estime José María Coronado, professeur d'urbanisme à l'Université de Castilla-La Manche.
La région n'avait pas besoin d'un aéroport, mais un aéroport moins grand, moins cher aurait pu être utile. Les transporteurs ont besoin d'endroits où garer leurs avions pour procéder à leur maintenance. Les grands aéroports sont saturés, donc les transporteurs cherchent des endroits valables pour effectuer ces services. L'aéroport de Ciudad Real devait remplir ce rôle, mais ensuite le projet a gonflé de manière disproportionnée. Son ouverture a dû être repoussée. Certains transporteurs qui tablaient sur la proximité avec Madrid sont partis. Barajas, l'aéroport de la capitale, a été agrandi. Avec ses 2 nouvelles pistes et un terminal flambant neuf, il était à nouveau opérationnel.
Madrid amplió el aeropuerto al doble, hizo 2 pistas más y hizo una terminal nueva.
À Tolède, à 100 de kilomètres de là, dans les bureaux de la gauche unie, José María Fernández, responsable politique du parti, confirme.
L'idée était bonne, il fallait décongestionner Barajas. Il suffisait de faire la connexion entre la gare TGV de Ciudad Real, son aéroport et Madrid, et le tour était joué. Les fonds devaient provenir des investisseurs privés. Mais comme il était question de Barajas, c'est-à-dire d'un aéroport public, une partie de cet argent a été apportée par la banque régionale, la Caja Castilla-La Manche, ce qui a mis en péril d'autres investissements dans la région.
La construction de l'aéroport a largement contribué à la faillite de la caisse d'épargne régionale. À Tolède, un centre culturel abandonné témoigne d'une époque dorée aujourd'hui révolue. Mario García Gómez milite lui aussi au sein de Izquierda Unida.
Les gens se sentent résignés. Nous vivons au jour le jour.
Castille-La Manche est la deuxième ou la troisième communauté d'Espagne en termes de précarité. Les habitants s'y sont habitués parce que jamais ils n'ont connu autre chose. 28% de la population est menacée d'exclusion sociale. Certains d'entre eux travaillent pourtant, mais c'est souvent un travail précaire qui ne débouche pas sur un projet de vie digne. Cela permet juste de ne pas mourir de faim.
Lo que se asegura es poder no morirse de hambre.
Castille-la-Manche regorge de soleil, source d'énergie renouvelable. Les produits agricoles comme l'huile d'olive, les olives, le vin ne sont pas valorisés à leur juste valeur. La région manque de projets d'avenir, martèle Mario. Il s'inquiète aussi.
L'indifférence de mes compatriotes pour la chose publique, la haine des politiques, tout ça, ça forme un terreau sur lequel poussent des formations populistes, fascistes et franquistes. C'est très dangereux pour notre société.
Puerta del Sol à Madrid. En mai 2011, cette place devient l'épicentre du mouvement des indignés. Des représentants de la société civile protestent contre une classe politique qui, selon eux, ne les représente plus. Mais en quoi cette crise espagnole est différente de ce qui se passe ailleurs ? Nassima Baron Yeles, professeur de géographie à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, en France.
Une crise, c'est comme une grande onde économique qui a une puissance destructive extrêmement puissante. Quand on pense Espagne, on pense 2007. L'été 2007, on a été un peu sur la crête d'une vague d'accumulation financière. Deux robinets d'argent coulaient à flot depuis 5 à 8 ans. L'Union européenne finançait, en vue d'un rattrapage économique, les pays du sud de l'Europe. Donc, il y avait des liquidités sur les marchés financiers qui venaient des fonds européens. Et puis, il y avait une politique néolibérale des années Aznar qui avait rendu le pays attractif pour ces fonds en ouvrant à l'urbanisation de très grandes quantités d'espace, en donner des crédits à des promoteurs qui allaient faire des opérations spéculatives immobilières. Et après, en régularisant massivement plusieurs millions de travailleurs immigrés qui étaient déjà sur place, eh bien, on les rendait tout de suite utilisables dans l'économie de la construction et la machine tournait à plein.
La conjoncture ne dure pas. L'éclatement de la bulle immobilière provoque une crise financière. Les taux d'intérêt montent, le robinet du crédit se referme.
Une grande vague de peur puis de panique prend 1) la bourse, c'est le crash, 2) les banques qui ne prêtent plus, rendant les promoteurs et les constructeurs insolvables du côté des débiteurs entreprises, rendant les ménages insolvables du côté des ménages hypothéqués. On concédait des crédits immobiliers à 50 ans pour des jeunes de 20 ans qui désiraient accéder à l'immobilier. C'est l'éclatement. À partir de là, on est sous Zapatero, gouvernement socialiste, qui voit très rapidement l'onde financière et bancaire, la raréfaction du crédit, aller vers l'économie réelle. Parce que du moment où vous avez des promoteurs et des constructeurs qui mettent la clé sous la porte, vous avez des chômeurs, vous n'avez plus de consommation. Et donc, vous voyez, c'est un phénomène d'onde qui se répand.
L'État n'arrive plus à se financer sur les marchés. Madrid annonce des coupes budgétaires. C'est la politique d'austérité. Le pouvoir d'achat des Espagnols baisse d'un tiers. Nombreux sont ceux qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Leurs biens sont saisis. Arrive la récession. La crise financière devient budgétaire.
On a des agences de notation, vous les connaissez, les fameux Standard & Poor's et les autres, qui considèrent que le niveau de confiance qu'on peut faire à l'acteur public, c'est la dette souveraine, ou aux acteurs financiers bancaires espagnols est très faible. Car les banques sont pourries, elles ont des créances pourries. Et l'État est mis en demeure de porter cette économie nationale. Il ne peut plus financer le plan emploi et le taux de chômage explose.
En 2012, l'Espagne demande 100 milliards d'euros aux Européens pour soutenir ses banques et ses caisses d'épargne, les fameuses cajas, extrêmement exposées aux créances immobilières douteuses. Cette aide de l'UE sera dûment remboursée. Nassima Baron Yeles.
La Banque Centrale Européenne, dans le cadre d'un nouveau robinet à crédit, a permis de ne plus vivre dans cette restriction du crédit qui étranglait donc les acteurs économiques, mais a permis de réinjecter de l'argent vers l'État, qui lui-même a créé un fonds de liquidité pour les régions qui elles-mêmes étaient tellement mal notées par les agences de notation, la Catalogne ne pouvait plus demander de l'argent sur les marchés internationaux. Donc l'État s'est substitué aux régions pour financer les régions. À partir de là, il fallait faire le ménage dans le système bancaire espagnol, ce qui va expliquer beaucoup de politiques d'austérité. On est à 5,8% du PIB pour sauver ce système financier à un coût macroéconomique énorme.
Ce n'est qu'en 2018 que les banques espagnoles se libèrent de leur boulet immobilier. Le sauvetage du système bancaire a laissé une ardoise de 40 milliards à l'État espagnol, de l'argent public envolé à jamais. La crise a poussé des milliers d'Espagnols hors du pays. Donner à ces jeunes diplômés des raisons de revenir, c'est l'objectif du site internet Volvemos, on rentre, une plateforme d'échange. Raúl Gil Benito l'a fondée avec ses trois compagnons d'exil.
Je vivais en Allemagne depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés là-bas. Je faisais toutes sortes de petits boulots. L'idée de créer le site internet Volvemos est née un soir de printemps 2015 à Berlin. On était assis à une terrasse de café, une bière à la main, et on s'est dit, on rentre. On voulait que nos enfants grandissent avec leurs grands-parents. À l'époque, il n'existait aucun programme national d'aide au retour.
Le succès est immédiat. Plus de 4000 personnes s'inscrivent sur le site. Volvemos ne publie qu'une centaine d'offres d'emploi après avoir rejeté 2/3 de celles qui lui ont été soumises.
L'émigration nous a appris beaucoup de choses d'un point de vue professionnel et personnel. Il faut mettre ça en valeur. Revenir comme une victime économique, c'est difficile. Revenir en tant que jeune talent, c'est autre chose.
Como persona con talento es más fácil.
Le plan de retour des talents mis en place par Volvemos a trouvé un certain écho auprès des régions. Mais seul Castille-La Manche en a fait sa priorité. Résultat, une centaine de retours enregistrés. Une goutte d'eau par rapport aux 600 000 jeunes qui ont quitté le pays. Raúl ne se fait pas d'illusions.
Beaucoup de facteurs entrent en jeu pour qu'un retour se passe bien. Il faut que l'économie reparte, que les entreprises trouvent les bons profils. On ne fera pas revenir tout le monde. Notre but, c'est d'offrir les meilleures conditions possibles à ceux qui veulent revenir. Si nous trois, tous fous comme nous sommes, nous avons mené à bien ce projet, nous devons maintenant aider les autres. Nous
pourrions offrir beaucoup plus d'opportunités à beaucoup plus de gens.
Revenir pour retrouver la même galère, il n'en était pas question pour Santos Prieto. Cet ingénieur en génie civil a tout réussi en France. L'apprentissage de la langue, une année d'études dans une grande école, un travail dans un bureau d'études. Mais sa famille lui manquait.
Il y a toujours les gens qui te laissent derrière, il y a toujours les repas familiales auxquels tu n'arrives pas à y aller. C'était un problème. Petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, ton côté personnel ne veut pas continuer dans ce sens. Mais tu t'es dit, je ne veux pas revenir en arrière. Tu entends, tu parles avec des amis, des personnes proches qui te disent, ah non, mais ici, on travaille 12 heures par jour, on n'est pas payé les heures extra, on ne sait pas. Au niveau professionnel, je me suis dit, je ne vais pas prendre n'importe quoi comme boulot. Et en plus, je voulais aussi rester en contact avec les côtés français du boulot.
Grâce au site Volvemos, Santos Prieto a été embauché en CDI par une entreprise franco-espagnole à Madrid.
On a tous des connaissances, des personnes proches qui sont vraiment touchées par la crise. Mais c'est vrai que moi, j'ai profité de ces temps-là parce que j'ai eu la chance aussi du support familial, économique et moral. Et ça m'a permis d'avoir un résultat positif de ces temps-là.
Le cabinet de conseil où travaille Santos s'appelle CGE. Son activité, le développement des entreprises, l'audit et l'investissement. Jean-Michel Jassin, le PDG, se souvient.
Nous, on a eu de très grosses difficultés très rapidement avec pas mal de clients Tout le monde nous disait que ça allait bien, mais ils avaient du mal à faire face à leurs paiements. Ben, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il faut partir, trouver rapidement de nouvelles voies. Pour nous, les nouvelles voies, c'était accompagner les entreprises qui voulaient trouver une opportunité à l'étranger. Le repliement sur l'international, pour nous, c'était naturel. Et c'est pour ça que nous, ça a bien fonctionné. Par contre, accompagner les sociétés qui, au dernier moment, ont réagi par instinct sur l'international, alors faire comprendre qu'on ne s'établit pas à l'international comme on ouvre une succursale à côté de la maison, mais que ça demande une stratégie, ça demande beaucoup de ressources financières, et ça demande aussi à envoyer en général les premiers couteaux. Et ça, il y a beaucoup de monde qui a eu du mal à le comprendre, parce que pendant des années, on a vécu sur une espèce de vague où tout valait, où tout était bon, où on allait voir les banques, on demandait des crédits, où c'est même les banques qui allaient voir en disant « mais embêtez-vous ».
À Cordoue, en Andalousie, l'entreprise familiale Aceitunas Torrent, producteur d'olives, fait partie de ces entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu de la crise. Francisco Torrent, le PDG.
La crise nous a permis de mieux nous positionner sur le marché. C'était une opportunité pour croître, pour éliminer les concurrents dont les entreprises n'étaient pas aussi fortes que la nôtre. Dans notre cas, on s'est efforcé de diversifier nos marchés. Chaque marché est différent à cause de sa culture, de sa religion, de son climat. Un méditerranéen aime quand l'olive est bien mûre, douce, ramollie. Un européen l'aimera dure et pas trop mûre. La qualité est la même, c'est le goût qui change.
Sin mancha. La calidad es la misma, es el gusto.
Malgré la crise, le groupe a réussi à garder tous ses employés.
Il y a indéniablement le côté noir de la crise, la destruction de l'emploi, la disparition des entreprises, le manque d'argent sur le marché. Mais les entreprises qui ont réussi à se maintenir n'ont jamais cessé d'investir. C'est notre cas. Nous avons réussi à maintenir 2 millions d'euros annuels d'investissement. En 2015, nous avons acheté une oliveraie et construit de nouvelles installations pour plus de 6 millions d'euros. Résultat, de nouveaux emplois.
Qu'est-ce qu'on consigue con eso? Una creación de empleo.
L'usine Torrent à Aguilar de la Frontera tourne à plein régime. Comme cette entreprise centenaire, l'Espagne veut tourner la page de la crise, aller de l'avant. Mais le pays n'est pas pour autant sorti d'affaires. Francisco Torrent.
La crise a changé de nom. Ce n'est plus la crise financière, mais une crise d'un autre type. On donne bien des crédits, il y a des taux très bas. Il suffit de sortir dans la rue pour voir la dynamique. Les gens gagnent de l'argent, il y a du travail. Mais tout ça, ce n'est pas grâce aux politiques. Les Espagnols arrivent à se sortir des pires périodes dans leur histoire, mais pas grâce aux politiques. Cette année, où nous n'avions pas de gouvernement, c'était la meilleure année pour nous.
Sabrá que aquí tuvimos un año prácticamente sin gobierno. Ese año fue el de mayor crecimiento. No estábamos dirigidos por nadie.
Jean-Michel Jassin.
Je pense qu'on n'est pas encore sorti du sujet parce qu'il y a quand même encore des taux de chômage qui sont assez élevés, surtout chez les jeunes. Il faudrait aussi qu'il y ait un tissu entrepreneurial des PME. Les gens ont du mal à se faire accompagner. Nous ayons pris la juste mesure d'entre la croissance, le fait d'en profiter et en même temps le fait de pérenniser.
Santos Prieto.
On veut changer les pays. Moi, je vais changer les pays. Ce que je veux, c'est que l'Espagne devienne le pays que j'ai en tête. C'est devenir le pays qui méritent les Espagnols. C'est de contribuer, on va dire, à faire un pays européen, à faire un pays qui, surtout, investit dans l'éducation, dans la technologie et dans la culture.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos.
Le gouvernement espagnol a présenté un plan de réforme destiné à augmenter la productivité et la compétitivité de l'économie espagnole. La lutte contre la pauvreté a été lancée. L'activité repart, mais certains secteurs inquiètent. Le marché de la location, notamment, atteint des sommets à cause de la location touristique, qui, elle, explose. En 4 ans, le prix du mètre carré a grimpé de 25% à Séville, de 40% à Madrid et de 50% à Palma de Majorque. Une nouvelle crise menacerait l'Espagne, une autre crise de l'immobilier. C'est par là que tout avait commencé. Espagne, 10 ans après la crise. Un grand reportage d'Agnieszka Kumor, réalisation Eva Moszynski.